Instruction pour les hommes sans Dieu, tirée du portefeuille d'un grand philosophe. Peut-on se passer de Dieu ? Réponse. Oh, rien de plus facile et de plus commode. Mais comment faut-il faire pour se passer de Dieu ? Bien, il faut que les philosophes se chargent d'organiser et d'arranger le monde. Mais quels sont ceux qui, le premier, ont tiré le monde du chaos ? Thalès de Milet, Héraclite le pleureur, le rieur Démocrite, Épicure, Pythagore, et 200 ou 300 philosophes grecs. Mais avec quoi ces messieurs ont-ils fait le monde ? Oh, les uns avec de l'eau, les autres avec du feu, quelques-uns avec de la terre. Mes philosophes modernes ont-ils été contents du monde tel qu'il a été créé par les anciens ? Ils ont trouvé indigne du siècle des Lumières, et ils l'ont refait d'après leurs principes nouveaux. Mais de quoi les philosophes modernes sont-ils fait le monde ? Avec de l'azote, de l'oxygène, du gaz carbonique et de la potasse, qui sont les vrais éléments d'un monde bien constitué. Mais comment les philosophes ont-ils fait l'homme ? L'homme, entre leurs mains, a d'abord été une plante, puis un ver, puis une huître, puis un mollusque, puis un serpent, puis un loup, puis un oiseau, comme on peut le voir dans le nouveau dictionnaire de l'histoire naturelle. Les philosophes ont-ils créé l'homme à leur image ? Ah oui, pour la plus grande gloire de la philosophie, ils ont créé l'homme à leur image. Mais qu'est-ce que l'homme ? Oh, c'est une bête brute qui est sortie de la terre comme les champignons, qui a longtemps rampé dans la boue, qui a vécu dans l'eau, qui a volé dans l'air. C'est une plante, une huître, c'est un serpent, c'est un ours, c'est un vautour, qui est susceptible de devenir philosophe. Mais quelle est la qualité qui met l'homme au-dessus des autres animaux ? L'homme est distingué des autres animaux que par l'angle facial. Et les nouveaux philosophes, par la forme des mains, selon Helvétius. Mais dans quelle partie du corps humain les philosophes ont-ils placé la faculté de penser ? Dans l'abdomen ou le bas-ventre, qui est l'aimable siège de la raison et de la sensibilité. Alors il ne faut donc plus parler de cerveau. Mais le cerveau est un mot de vieille école. Au lieu de dire « on va troubler le cerveau », un philosophe se doit de dire « on va troubler l'abdomen ». Et au lieu de dire « cet homme qui a 1000 projets dans la tête », on doit dire qu'il a 1000 projets dans le bas-ventre. Que doit-on faire pour former la raison et l'esprit de l'homme ? Oh, mais il faut lire la Mégalanthropogénésie ou l'art de faire des enfants d'esprit par M. Robert du département des Basses-Alpes. Et quels sont les moyens que la Mégalanthropogénésie enseigne pour recréer des grands hommes ? Eh bien, le conseil, on en conseille plusieurs. Le plus efficace, c'est celui qui est à la portée de toutes les mères, c'est de manger du miel de Narbonne et de boire du bon vin de Chablis. Mais quel moyen avons-nous de former La mémoire. Oh, bon, on peut acheter de la mémoire comme on achète une pièce de drap. On n'a qu'à s'adresser à Monsieur de L'Aigle, qui en vend à juste prix et qui apprend à retenir les noms des empereurs romains et des rois de France pour la somme de 69 francs, 10 sous et 40 centimes. Mais comment peut-on retenir les noms des rois de France et des empereurs romains? Oh, si vous voulez vous souvenir de Néron et de Caligula, songez à un râteau ou à tout autre instrument de jardinage. Si vous voulez vous souvenir de Clovis, songez au fauteuil de Dagobert. Mais quelle est la destinée de l'homme? Ben, c'est de devenir philosophe, s'il le peut. Et comment peut-il y parvenir? Ben, en diminuant les degrés de son angle facial et en exerçant ses mains dans toutes les occasions. Mais après avoir vécu en philosophe, ne va-t-il revenir à la mort? Non, il doit retourner à sa première origine, être rendu aux matières chimiques avec lesquelles il a été formé. Il doit se changer en azote, en acide carbonique et en potasse. Il doit redevenir un arbrisseau, un mollusque, s'estimer heureux s'il parvient à l'état de quadrupède. Un empereur romain disait en mourant: Oh, je sens que je deviens Dieu. Un philosophe doit dire: Je sens que je redeviens bête. Voyez-vous à la résurrection des corps? Oui, je crois à la résurrection des corps par le moyen du galvanisme. Et quelle preuve en avez-vous? Oh, je l'ai pour preuve un dialogue que j'ai lu dans la bibliothèque britannique d'un philosophe allemand et de la tête d'un pendu, ressuscité à l'aide d'une pile de Volta. Mais la philosophie peut-elle remplacer la providence? Mais les philosophes sont la providence elle-même. Le froid a-t-il gelé vos vignes? Vous faites du vin sans raisin. Les champs ont-ils été privés de moisson? Ils feront un excellent pain, sans seigle et sans froment. L'Amérique ne produit-elle plus de sucre? Les mêmes philosophes en trouveront dans l'écorce de l'érable ou dans la betterave. La philosophie, en un mot, est une providence qui veille sans cesse sur tous vos besoins, qui est toujours là sous vos yeux et qui communique tous les jours avec le public par la voix des journaux. Mais quelles sont les consolations que la philosophie apporte à ceux qui souffrent? Elle leur recommande de se révolter contre l'oppression, de briser tous les liens qui les fatiguent, d'exhaler leur humeur contre les institutions sociales, de rechercher leur bonheur par tous les moyens qu'indique la sage nature. Et quand la nature ne peut rien pour eux, la philosophie leur enseigne de faire la restitution de leur être aux éléments. Mais comment l'homme peut-il faire la restitution de son être aux éléments? En se tirant un coup de pistolet dans l'angle facial ou en plongeant une épée dans le siège de la pensée, autrement dit dans l'abdomen ou le bas-ventre. Il peut aussi se jeter dans la Seine du haut du pont des Arts, se précipiter du haut de l'observatoire. Ces moyens sont indiqués par la saine philosophie. Et les philosophes ont fait tant de choses. Ils ont créé le monde, ils ont formé l'homme à leur image. S'ils ont bien rempli, remplacé la providence, qu'a-t-il donc besoin de croire en Dieu? Je n'ai jamais moins senti la nécessité. Mais peut-on avoir des vertus sans croire en Dieu? Les vertus ne sont pas absolument nécessaires dans un monde créé, ordonné par la philosophie. Rien n'empêche cependant qu'un philosophe écrive dans les journaux qu'il est le plus heureux de tous les philosophes et le plus vertueux. Et la tolérance est-elle bonne à prêcher dans le monde? Elle doit être le point de ralliement. Nous devons sans cesse la prêcher. Ce qui ne nous empêchera pas d'écraser l'infâme quand l'occasion s'en présentera et d'immoler tous ceux qui ne sont pas de notre avis à la cause sacrée de la tolérance.